France Culture. Les nuits de France Culture.
Les vacances. La douce chaleur du soleil sur la peau. Les soucis qui s'évaporent. Le travail qui s'éloigne et le bonheur qui rayonne l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Les vacances sont aussi un terrain propice au renouveau de l'amour du couple, qui peut se retrouver loin des problèmes ankylosants du quotidien. Combattre la monotonie, contrer la grisaille, briser la routine, voilà la vocation des vacances conjugales qu'explore ce quatrième de 6 épisodes de la série « Enfer et bonheur du couple » de Raymond Thévenin pour la Tribune de Paris. On y entend André Mauroy, Marie-Louise Villiers, François Perrier et Jean Duché parler de l'importance de retrouver cette passion qui se perd, loin parfois des enfants, que l'on laisse chez les grands-parents, pour sceller de nouveau une union qui ne devrait pas exclusivement reposer sur la contrainte. Une émission diffusée pour la première fois le 4 juillet 1951 sur la chaîne nationale.
On parle beaucoup de vacances conjugales. Qu'est-ce que sont les vacances conjugales, François Perrier ?
Évidemment, il ne faut pas faire croire aux auditeurs que nous allons aborder le problème du mari et de la femme louant une propriété au bord de la mer. Il s'agit, c'est-à-dire, des vacances que le couple s'offre séparément. C'est bien ça ?
Oui.
De la détente, en quelque sorte.
Et je crois qu'il s'agit non seulement des vacances que le mari peut prendre de son côté et la femme du sien une fois par an ou deux fois par an, mais aussi des vacances quotidiennes, qui sont aussi bien le lieu où chacun peut être isolé à un certain moment dans la journée, ou aussi de la possibilité de sortir chacun de son côté à un certain moment. François Perrier ?
Est-ce que ce procédé n'est pas très en faveur dans les pays anglo-saxons ?
André Mauroy ?
Oui, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, les femmes sortent très facilement sans leur mari, déjeunent ou dînent avec des hommes. Quant aux absences prolongées, je ne sais pas si elles sont plus fréquentes dans les pays anglo-saxons chez nous. Nous avons tant de couples chez nous qui envoient la femme à la mer avec les enfants. C'est à peu près ce qui se passe là-bas.
Marie-Louise Villiers ?
D'ailleurs, il y a une chose qui plaiderait plutôt contre cet état de choses, c'est qu'au fond, c'est le pays où il est le plus fréquemment admis que les hommes et les femmes se séparent pour se reposer l'un de l'autre, qu'il y a le plus de divorces, somme toute.
Oui, mais là, il intervient probablement d'autres causes, qui sont en particulier la facilité du divorce et peut-être un climat social différent. Et je crois que là, nous sortirions du sujet.
Oui, ben restons-y.
Pour y rester, moi, je crois profondément à la vertu des vacances conjugales, comme nous venons de les définir, parce que de la variété. La variété est nécessaire dans le mariage, car le plus grand ennemi dans le mariage, c'est la monotonie, c'est l'habitude. Eh bien, de la variété naît la constance, tandis qu'au contraire, de la monotonie naît le besoin d'infidélité, le désir et l'infidélité elle-même.
Certains couples, à certaines époques, éprouvent le besoin de s'aérer. Personnellement, moi, je n'ai envie que de vacances à deux. Et d'autre part, je trouve que les vacances séparées sont bien dangereuses.
Moi, je suis absolument de cet avis.
Moi aussi, je suis de l'avis de Georges Etriclin. Je trouve que quand un couple est parfaitement heureux, quand on a plaisir à être ensemble, on ne peut plus jouir de rien à partir du moment où on n'est plus avec l'homme ou la femme qu'on aime.
Quand j'étais plus jeune, j'étais contre toute prudence. Et maintenant, avant, je trouvais que c'était lâche d'avoir de la prudence. Et bien maintenant, je trouve que dans le mépris de toute prudence, il entre beaucoup de mauvaise foi et de la lâcheté.
Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire, il est très prudent de temps en temps d'ouvrir la soupape et de s'en aller chacun de son côté.
Oui, en effet, Georges Etriclin, il faudrait bien s'entendre. Ou bien vous dites que les vacances conjugales, vous êtes contre les vacances conjugales parce que vous préférez rester avec votre mari par amour, ou bien c'est pour vous une simple prudence, vous êtes contre les vacances conjugales parce que vous craignez de le laisser partir seul.
Eh bien, il y a les deux. Je ne crains pas de le laisser partir seul, pas plus que je ne crains de partir seul. Il y a les deux choses. Premièrement, j'aime mieux être avec mon mari. Et deuxièmement, je crois qu'il est dangereux dans le cas où on veut un petit peu s'aérer. Il y a des moments dans la vie où on a envie de s'aérer. Ça arrive à tous les couples. Eh bien, il est dangereux de céder à cette envie.
Marie-Louise Villiers ?
Eh bien, moi, je m'élèverai contre ce qu'a dit Duché, qui a dit que le plus grand ennemi du mariage, c'était en général l'habitude et la monotonie. Je crois que c'est la plus grande sauvegarde du mariage. Parce que je crois justement qu'à partir du moment où on sort de cette monotonie, on prend conscience de toutes les choses qui vous choquent et qui vous gênent, et justement, oui. Là, le mariage court un réel danger.
Oui, mais Marie-Louise Villiers, alors, en étant contre la théorie de Duché, vous êtes tout de même pour les vacances conjugales. C'est-à-dire que vous souhaitez les vacances conjugales pour mesurer les vertus du mariage. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on revient de ces vacances ravigoré. Beaucoup plus.
Ah non,
je dis au contraire qu'à partir du moment où on se réveille de cette sublime monotonie, on risque de prendre conscience de cette monotonie. Tandis que quand on est dedans,
c'est la politique de l'autruche.
Mais naturellement, il n'y a que celle-là de prudente, puisque nous parlons comme Georges Triclin, que nous sommes pour la prudence dans ces cas-là. Pour la sauvegarde du foyer.
Mais là, Marie-Louise Villiers part de cette idée que le couple risque à chaque instant de se défaire. Moi, au contraire, je pars de l'idée que le couple existe et qu'il y a une vie commune. Mais aussi que la vie commune constante et monotone et toujours répétée est une chose lassante et que lorsque on se sépare, dans un couple qui s'entend bien, on s'aperçoit mieux à ce moment-là que l'on s'entend. Bref, en un mot, je ne suis jamais aussi près de ma femme que lorsque je m'en éloigne.
François Périer, je crois que nous sommes aux extrêmes. Georges Triclin représentant l'un des points et Duché l'autre. Voilà, je crois en réalité, vous avez parlé tout à l'heure des vacances même dans la journée.
Oui.
C'est-à-dire, je crois que celle-là est tout de même assez souhaitable, car j'imagine mal le couple vivant littéralement l'un sur l'autre.
Mais je suis pour.
Vous, Duché, vous poussez tout de même la question un peu loin. On pourrait même envisager, après vous avoir entendu, qu'on peut décider de vacances. C'est-à-dire qu'on imagine très bien, après ce que vous avez dit, le mari et la femme disant « Écoute, depuis quelque temps, ça ne va pas très bien si on se ferait quelques vacances conjugales. »
Mais certaines personnes se le disent, d'ailleurs.
Oui. Alors, vous
mais
êtes
avec,
pour
mais
ça.
Le plus mauvais résultat.
Le plus détestable. Parce le que quand on, quand on est dans cet état d'esprit, c'est qu'il vaut mieux se séparer pour de bon.
Eh bien, écoutez, alors là, j'ai une expérience personnelle, puisque mon métier fait que, d'une part, lorsque je suis à Paris, je vis tout le temps chez moi, je travaille chez moi. Et d'autre part, mon métier de journaliste m'appelle de temps en temps à faire des reportages qui m'éloignent de chez moi. Eh bien, je trouve que, à ce moment-là, il se produit en moi, et je crois chez ma femme, un renouveau. Je m'absente 8 jours ou 15 jours et nous revenons et nous repartons.
Oui, pourtant, Jean, vous devriez être le dernier à vous plaindre de la monotonie si nous en croyons votre livre. Elle est lui. Parce que vraiment, là-dedans, on a un sentiment de diversité palpitant, de mouvement perpétuel.
Mais c'est précisément parce qu'il écrivait ce livre quand il n'était pas avec sa femme.
Georges Triclin ?
Eh bien, moi, je pense qu'on peut quand même avoir... je suis d'accord pour s'aérer aussi. Seulement, je suis d'accord pour s'aérer à deux. Je pense qu'on peut avoir... Enfin, trouver des îlots de vie passionnée. Par exemple, les week-ends, me semble... d'ailleurs, sans sortir de chez soi. On peut parfaitement faire un feu de bois, et avoir un joli déshabillé, faire sa danse de la séduction devant son mari.
Ça, et donner les enfants à la belle-mère, parfaitement.
Mais oui, on trouve toujours...
On sentait la présence des enfants dans ce que j'aime bien dans cette
André Mauroy.
En effet, moi, je suis d'accord avec Georges Triclin. On peut très bien se renouveler à deux, à l'intérieur d'un couple. Seulement, le seul avantage que je vois à se séparer de l'homme ou de la femme qu'on aime, c'est qu'on peut alors lui écrire. Et que, par lettre, on arrive à dire des choses que l'on n'aurait pas dites autrement, on les dit beaucoup mieux, et quelquefois, on peut rétablir une situation compromise par quelques lettres.
Je m'excuse, mon cher maître, mais est-ce que ça n'est pas un point de vue de littérateur? Enfin, ne pensez-vous pas aux lettres de l'amour de la littérature?
Il faut certains dons, certainement.
Je vais même vous dire un autre point de vue. J'ai la sensation qu'André Mauroy, par lettre, arrive même à avoir une présence beaucoup plus puissante encore que quand il est là. La façon dont il a parlé des lettres, on sent vraiment que, par exemple, si une histoire va mal, on peut très bien s'absenter, et grâce aux lettres, seulement il faut peut-être qu'elle soit signée André Mauroy.
Ah, voilà, voilà tout le problème. C'est ce que je disais sous une autre forme.
J'ai l'impression.
Je crois que même il y a d'assez nombreux cas. Alors, si vous lisez des biographies de gens illustres, vous voyez que...
De gens illustres ?
Oui, mais vous ne lisez pas les biographies des autres. Vous dites quelque chose là qui me semble très juste. Je ne pense pas à la qualité là, littéraire des lettres. Je pense au fait que séparés, mais pas séparés à la mer l'un et l'autre à la montagne, mais une petite séparation fait réfléchir, fait voir d'un peu plus haut le problème. Il se trouve quelquefois qu'il y ait des différents idiots. Idiots qui naissent de la cohabitation. Et alors, vu d'un peu loin, ces dissentiments paraissent idiots, paraissent ridicules.
Bien sûr.
Oui, c'est-à-dire que la lettre permet d'éliminer un tas de détails.
De faire le point.
On fait retraite et on va à l'essentiel.
Marie-Louise Villiers, je m'excuse, je voulais dire ceci. Nous voulions parler également de la scène conjugale. Est-ce que la scène conjugale n'est pas l'envers
C'est-à-dire que je crois que... Enfin, je voudrais d'abord poser ceci, enfin, en principe, pour moi, c'est que si on s'aime vraiment, on ne se voit jamais trop. Si on ne s'aime pas, on se voit toujours assez. Mais ceci dit...
Belle définition.
C'est vrai.
Ceci dit, les suites et la conséquence fatale, justement, de cet état de passion, ou justement, qui incite à se voir toujours, tout le temps et à chaque instant, la conséquence fatale, donc, de cet état de passion, c'est la scène. On aboutit à la scène conjugale, qui est toujours un état de passion, et dans lequel on se réfugie pour pallier au manque de la première passion. Là, vraiment, il y a une utilisation de la scène qui intervient.
Par la femme.
Par la femme, parce que l'homme, au fond, joue très mal son rôle dans cette histoire. Il est très médiocre, très mauvais dans cette histoire.
Ah, François Perrier, il me semble que François Perrier est visé.
Je ne sais pas pourquoi spécialement moi.
Dans votre métier.
Je crois qu'il y a plusieurs sortes de scènes conjugales. Il y a la scène conjugale qui est provoquée par un événement précis, vrai, authentique. C'est-à-dire la scène conjugale qui éclate bêtement à propos d'une erreur, enfin d'une chose qui a pu se produire, et qui fait qu'au fond, à ce moment-là, les deux protagonistes sont à peu près de bonne foi, en tout cas au départ. Et évidemment, toujours...
Il y a un état de tension, il y a un exutoire.
Elle dégénère.
Je m'excuse, mais dans ce cas-là, s'il s'agissait d'un dissentiment non passionnel, vous auriez une discussion. Vous avez une scène conjugale. Toute la différence est là. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que la discussion dégénère
en scène? Parce que le motif est idiot, généralement.
Non, pas pour ça.
Non, tout simplement parce que la cohabitation et le fait du couple chez deux êtres, qui évidemment sont tous les deux extrêmement sensibles, et elles dégénèrent parce qu'ils sont énervés et ils se montrent l'un à l'autre.
Parce qu'ils ne peuvent plus se voir aussi.
Parce que
l'un des deux a besoin de remettre un nouveau climat dans le couple et qu'il se sert d'un prétexte futile et d'une lessiveuse, comme je disais tout à l'heure, d'un frigidaire ou d'un bouton qui n'est pas recousu à une chemise pour enchaîner sur « tu ne m'as pas dit bonjour hier soir », sur « mon ami un tel reçoit des fleurs de son mari, tu ne m'en apportes pas ». Enfin, c'est toujours la femme d'ailleurs en général parce qu'elle elle aime ça, parce que parler d'amour pour elle, ça remplace souvent, si j'ose dire, le faire, et qu'elle se réfugie là-dedans quand l'état de passion n'est plus suffisant.
André Mauroy.
Je crois que la différence entre la discussion et la scène, c'est que la discussion est sur un objet précis, elle est sur le bouton mal attaché ou sur l'ami qui est trop venu, tandis que la scène est riche de toute l'accumulation de tensions qui s'est faite pendant les jours précédents.
Mais je crois même qu'on pourrait parler de la scène consciemment provoquée.
Ah ben ça c'est autre chose, alors oui.
D'ailleurs il y a des heures pour faire des scènes, ça ne rend pas de la même manière à 2h de l'après-midi qu'à 11h du soir. Il est évident qu'une scène bien orchestrée ne doit pas prendre place dans la journée où on risque d'être interrompu tout le temps. Une bonne scène se prépare.
Et puis elle doit pouvoir se terminer bien. Le soir est préférable.
Oui, c'est meilleur, on a de meilleurs résultats.
Georges Tréclin.
Personnellement, je me méfie des scènes, je suis trop bon tireur. Je trouve que c'est dangereux, que dans le fond, on n'arrive jamais à changer les gens quand on leur a dit une fois, tu ne seras jamais qu'un petit employé, eh bien, je ne crois pas que ça n'ait jamais fait des millionnaires par la suite. Et l'autre pensera toujours à cela, alors que vous l'aurez déjà depuis longtemps oublié.
Oui.
On ne change pas l'autre, mais on change le climat, ne serait-ce que pendant une heure ou deux. Et c'est en somme ça.
Mais on ne le change pas pour plus longtemps.
Oui, on ne le change pas.
Si.
On ne le change pas en mieux.
Si, je ne sais pas si on le change en mieux, mais on le change. On le change parce que il me semble que l'homme a tendance à s'endormir, et peut-être quelquefois la femme à s'endormir dans la vie commune, parce que c'est toujours un peu la même chose. Et la femme est à l'affût de cette possibilité de ravigoter le sentiment, la passion, et lorsqu'elle monte dans la scène conjugale, car c'est vraiment une ascension, et qui se fait d'ailleurs toujours de la même façon, qu'on commence par un bouton une lessiveuse, ou que ce soit tout ce que vous voulez, ça se termine toujours de la même façon, par des injures, par des coups de griffe, mais alors, à ce moment-là, ça saigne, et c'est tout ce que voulait la femme. Elle voulait qu'enfin, il y ait quelque chose d'un paroxysme.
Que ça vive.
Ce que vous dites me paraît extrêmement grave. Parce que je crois que, dans une scène conjugale, on peut être amené à dire des paroles qu'on regrette, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Georges Tréclin. Ne croyez-vous pas que c'est là le danger des scènes, et la raison pour laquelle il faut les éviter?
Je pense qu'il y a d'autres moyens de revendication. Moi, personnellement, je trouve que ça rend toujours beaucoup mieux quand je fais du charme que quand je fais des scènes.
Très bien.
Mais c'était évident. Marie-Louise Villiers.
D'ailleurs, c'est là, je dois dire un mot aimable pour ces messieurs, où l'homme fait preuve d'une assez grande générosité, car dans ces scènes, il se refuse souvent à frapper de peur de frapper trop juste, même quand il est frappé lui-même très durement.
Vous voulez dire pas frapper, pas de coup?
Non,
je voulais le préciser dans l'esprit des auditeurs.
Oui, est-ce que ce n'est pas justement parce que la femme, elle, se passionne immédiatement dans la scène conjugale, tandis que l'homme a horreur de la scène conjugale? Pour moi, personnellement, c'est une agonie, une scène conjugale. Mais on reste froid, du moins, enfin, j'essaye de rester froid, et je sais qu'à ce moment-là, si je lâchais mes balles, ça serait beaucoup plus méchant, parce que, justement, je ne suis pas...
Parce que vous n'y prenez pas plaisir.
Ah, pas du tout.
Ah, oui. Non, vous ne l'envoyez pas les balles pour qu'elles rebondissent, si j'ose dire.
Eh bien, je crois que certaines femmes peuvent faire des scènes conjugales à froid. Moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Vous avez eu l'air de dire, au fond, la conclusion de cet entretien, c'était que Marie-Louise Villiers nous dit que les femmes, elles, sont très nerveuses et qu'elles se donnent pleinement à la scène conjugale et qu'au fond, l'homme s'y refuse. Eh bien, ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Je crois qu'il y a parfaitement des scènes conjugales qui peuvent être extrêmement pénibles, extrêmement dures, sans être véhémentes.
Ah, mais il y a une scène, par exemple, qui existe. Une femme, par exemple, songe à tromper son mari, admettons. Eh bien, elle hésite parce qu'au fond, c'est un brave garçon. Elle l'exaspère. Elle le met dans un état vraiment insupportable, elle crée entre eux un état de tension et presque de haine pour pouvoir trouver sa justification dans son désir de le tromper.
Quel machiavélisme!
Ah, mais c'est existant, ça, c'est une chose qui existe.
Duché?
Marie-Louise Villiers vient de prononcer le mot de haine, et je crois que tout de même, il faudrait en parler. Nous n'avons parlé que d'amour jusqu'à présent. Ça va tout de même, ensemble, c'est l'endroit et l'envers. Lorsque on vit toute une vie avec quelqu'un, il me paraît difficile de ne pas le haïr à certains moments, et le haïr d'autant plus qu'on l'aime davantage. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où l'on aime quelqu'un, on ne s'appartient plus, on est possédé par l'autre, on est envahi par l'autre. Et tout de même, ce n'est pas toujours agréable d'être envahi par l'autre, que ce soit passionnellement ou que ce soit dans la vie quotidienne. Et à ce moment-là, s'il faut que ça éclate d'une façon ou d'une autre, et alors à ce moment-là, on s'envoie des choses.
Alors, deux solutions, les vacances conjugales ou la scène conjugale ?
Les vacances me paraissent plus sages.
André Mauroy ?
Je crois qu'il ne faut jamais exprimer la haine parce que le souvenir en reste.
Oui. Mais je crois que la haine n'est justement exprimée que par des êtres extrêmement violents, ardents, si j'ose dire, et qui arrivent à leur maximum d'amour en exprimant cette haine.
Moi, je trouve qu'on n'a qu'une vie et il faut essayer de ne pas la gâcher. Alors, c'est tellement plus facile d'être heureux.
Oui, mais vous parlez c'est en être
difficile.
Sans passion, Georgette.
Pourtant, je suis passionnée, ma petite.
Je ne sais pas.
François Perrier.
Nous venons de parler de la scène conjugale. Vous n'avez pas parlé d'une forme de la scène conjugale. C'est faire la tête.
Ça, c'est horrible.
Ah, oui.
Ah, mais ça, c'est autre
chose. Ah, c'est horrible.
C'est
très employé.
C'est la défense de l'homme.
Alors là, j'ai horreur de la scène conjugale, mais j'aime mieux la scène conjugale que la femme qui fait la tête.
Mais ça, c'est beaucoup plus rare chez les femmes, alors parce qu'elles aiment trop parler pour faire la tête.
De même que j'aime mieux un cours en rage qu'un temps lourd pendant des jours.
Oui, le journal déplié devant l'assiette.
Moi, personnellement, je connais un homme qui n'a pas parlé à sa femme pendant 6 ans.
Oh là là.
Pendant 6 ans?
Oui.
Et elle n'a pas divorcé?
Elle l'aime.
Marie-Louise Villiers?
Vous me rappelez l'histoire de cette vieille duchesse qui était en train de mourir et à qui on dit « Monsieur le Duc demande à vous voir ». Et elle a répondu « Il entrera avec les sacrements
». Je crois qu'il nous reste très peu de temps, il faut conclure. Voulez-vous essayer de dégager de ce que nous venons de dire, André Mauroy, les lignes générales ?
Eh bien, il me semble que quelques-uns d'entre nous ont pensé que des vacances conjugales étaient nécessaires, d'autres ont pensé que des scènes étaient nécessaires. Moi, je pense que et vacances conjugales et scènes sont inévitables parce que nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, mais qu'il faut les éviter autant que possible parce que les vacances conjugales sont dangereuses, parce que les scènes conjugales laissent des traces et que le bonheur est tout de même plus sûr si on ne l'expose pas à ces troubles de deux sortes.
C'était le 4e épisode de « Enfer et bonheur du couple », une série de Raymond Thévenin pour la Tribune de Paris avec André Mauroy, Marie-Louise Villiers, François Perrier et Jean Duché. Première diffusion le 4 juillet 1951 sur la chaîne nationale. À suivre.